La Covidienne. Du lundi au jeudi, 30 minutes d'actu, virale et collégiale.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur La Covidienne, sur les ondes de Radio Campus Angers. On est ensemble pendant une demi-heure pour discuter de l'actualité locale et aujourd'hui c'est Léo qui s'est chargé de nous proposer un programme un peu spécial et ce qu'on va faire c'est que je vais te laisser la parole pour nous présenter tout ça.
Bonsoir à toutes et tous. Ce matin, j'ai pu participer au point presse organisé par le personnel du CHU d'Angers. Les différents médias locaux et nationaux présents, dont Radio Campus Angers, ont pu comprendre précisément comment l'établissement gérait la seconde vague de coronavirus. Ensuite, j'ai interviewé Brigitte Molinès, une aide-soignante, membre du syndicat Force Ouvrière d'Angers, du Maine-et-Loire. Celui-ci appelle à la mobilisation demain, jeudi 5 novembre, devant le village Saint-Exupéry à Avrillé, et nous expliquera pourquoi en deuxième partie d'émission. Le matin du mercredi 4 novembre, le CHU d'Angers tenait une conférence de presse afin de faire un point de situation sur la seconde vague de coronavirus dans le secteur et préciser les moyens mis en œuvre par l'établissement pour répondre à un nombre de patients toujours croissant. Selon les chiffres de l'Agence régionale de santé du Maine-et-Loire, au 3 novembre, 238 patients étaient pris en charge pour cause de coronavirus, dont 51 en réanimation. Le taux de positivité des tests sur les 7 derniers jours est de 18,6%, alors qu'il est de 16,7% dans la région. 201 décès ont été recensés depuis le 24 février 2020. Ce matin, c'est Cécile Jaglin-Grimont-Pré, directrice du CHU, qui s'est exprimée en premier. Elle estime que la seconde vague était attendue, mais que l'établissement s'y était préparé, notamment lors de la période estivale, et s'est félicitée de la solidarité qui s'était manifestée entre les établissements de santé de la région, publics comme privés, et même avec les établissements d'autres régions. Cependant, elle a également fait part de ses inquiétudes face à l'augmentation du nombre de cas depuis la mi-octobre.
Le message que je voulais vous passer, c'est un message sur une situation qui est inquiétante, mais à laquelle nous sommes prêts à faire face. Depuis la première vague, nous savions que nous serions confrontés à nouveau à un nombre important de patients Covid à prendre en charge et que nous avons anticipé cet état. Pendant tout l'été, la cellule de crise a continué à se réunir au sein du CHU pour faire trois choses. D'une part, des retours d'expérience. Des retours d'expérience sur la façon dont on avait géré la première vague, qu'on a interrogé nos personnels, ils ont répondu à une enquête. On s'est réunis en interne, en cellule de crise et directoire pour faire des retours d'expérience. Et on l'a fait aussi sur le territoire, avec nos partenaires et avec l'Agence régionale de santé. Ça sert à se préparer, à voir ce qui a marché, ce qui a moins bien marché, et à essayer d'anticiper de façon à être encore plus près la deuxième fois. Et donc c'est dans cette situation que nous nous trouvons actuellement. Et c'est aussi pour ça que nous avons déclenché le plan blanc très tôt par rapport au rebond épidémique, puisque dès le 21 septembre, nous avons remobilisé le niveau 2 du plan blanc, donc le niveau maximum, de façon à pouvoir commencer à réorganiser notre offre interne pour accueillir les patients au fur et à mesure qu'ils arriveraient. Donc la situation en chiffres aujourd'hui, c'est 140 personnes malades qui sont dans les différents services du CHU, dont 35 en réanimation. Ce qui est particulièrement inquiétant, c'est la rapidité de progression de la pathologie, puisque au 20 octobre, nous avions 37 patients. Donc vous voyez la rapidité d'augmentation de la dégradation de l'état de santé des patients du territoire ligérien. Pour faire un petit retour sur la première vague, que vous ayez bien en tête, le point focal était au 14 avril. Nous avions à ce moment-là 139 patients Covid hospitalisés. Et je vous rappelle que nous avions déprogrammé, sur consigne nationale, la totalité de nos activités non urgentes. Donc aujourd'hui, nous sommes à 140 patients et nous n'avons pas commencé à déprogrammer l'activité. Donc ça vous montre le niveau de préparation de nos professionnels. C'est-à-dire qu'on est en mesure maintenant de prendre en charge les patients dans tous les services, tout en protégeant les personnels et les patients qui viennent pour d'autres pathologies. Et nous allons commencer à déprogrammer de manière progressive, mais le plus lentement possible, de manière à ne pas prendre trop de retard dans la prise en charge des autres pathologies. Je vous parlais d'anticipation. Qu'est-ce que nous avons fait pendant l'été qui nous permette d'être confiants aujourd'hui ? D'abord, notre priorité, c'était permettre aux agents de récupérer. Donc nous nous sommes efforcés de permettre à tous les agents de prendre au moins 3 semaines de vacances pendant les mois d'été, de façon à ce qu'ils se reposent. Nous avons essayé de rattraper les retards de prise en charge et nous estimons aujourd'hui que nous avons rattrapé à peu près 2/3 des prises en charge qui avaient été déprogrammées au printemps. Et puis nous nous sommes équipés. Les équipements, c'est à la fois tous les équipements dont les patients Covid ont besoin et qui nous avaient fait défaut au début du printemps, donc des respirateurs. Nous avons aujourd'hui 50 respirateurs de plus que ceux que nous avions au début de la crise Covid. Nous avons commandé 150 pouces seringues. Vous savez qu'un patient de réanimation, c'est 3, 4, 5, 6 pouces seringues différents pour administrer tous les traitements. Donc nous avons commandé 150 pouces seringues supplémentaires. Et puis, nous avons maintenu un programme de formation important pour les personnels qui ont une compétence en réanimation et qui n'y exercent plus, de manière à être prêts à les remobiliser auprès de ces patients le plus vite possible. Donc c'est 300 personnes qui n'exercent pas habituellement en réanimation, mais qui ont une compétence en réanimation et qu'on s'efforce de maintenir la plus pointue possible. Par ailleurs, nous sommes confrontés, comme tous les autres établissements des Pays de la Loire, à des difficultés de recrutement. Il n'y a pas actuellement d'infirmières ou d'aides-soignantes disponibles sur le marché du travail. Donc nous avons prolongé 240 contrats d'été. Vous savez que tous les ans, on passe des contrats courts avec des personnes pour remplacer nos agents pendant leur congé d'été. Nous avons proposé à tous les contractuels qui étaient là cet été d'avoir une prolongation sur l'automne et le début de l'hiver. Et c'est 240 contrats qui ont été acceptés et signés, ce qui nous permet aujourd'hui de faire face à un absentéisme qui est important, évidemment, dans des conditions pas trop dégradées. Par ailleurs, pour soutenir les équipes engagées dans le Covid, nous avons proposé des contrats à des étudiants. Donc, dès cette semaine, nous avons 70 contrats qui s'adressent à des étudiants en des écoles paramédicales, donc des étudiants en école d'infirmière, des étudiants en école d'aide-soignante notamment. Et nous avons 70 contrats qui sont venus renforcer les équipes. Alors, ce ne sont pas des agents diplômés, ils ne remplacent pas nos professionnels, mais ils viennent en soutien de façon à ce que nos professionnels puissent se consacrer aux soins et ne soient pas trop dérangés sur des tâches plus annexes. Moi, je voulais insister en conclusion de cette présentation préliminaire sur la solidarité que nous avons pu organiser vis-à-vis des établissements de notre territoire, mais aussi des établissements d'autres régions de la France, grâce à notre anticipation. Cet été, la Mayenne était en difficulté sur la fin du mois de juillet et le début du mois d'août. Ensuite, ça a été la Sarthe qui a connu un pic épidémique à la fin de l'été. Et puis, dans les dernières semaines, c'était l'hôpital de Cholet. À chaque fois, notre niveau de mobilisation nous a permis d'accueillir des patients de ces établissements, de venir en soutien et de jouer notre rôle de CHU. Jusqu'à cette semaine, tous les patients Covid régulés par le SAMU de la zone des Mauges et du Choletais venaient au CHU directement, de manière à permettre à Cholet de passer ce cap difficile. Sur le plan de l'agglomération d'Angers, nous avons retravaillé sur un plan d'action territorial qui nous permette de faire face ensemble à ce pic épidémique. Donc moi, je tiens à souligner la qualité des échanges que nous avons avec les établissements du groupement hospitalier de territoire, mais aussi avec les cliniques privées. Quel est le rôle des cliniques privées dans cette phase ? C'est de garder leurs patients Covid autant que possible et d'accueillir les patients du CHU qui nous permettent, nous, de développer notre potentiel de réanimation, puisque c'est notre rôle. Et donc, les cliniques privées accueillent dans leurs unités de surveillance continue nos patients en post-réanimation ou nos patients en post-activité chirurgicale, puisque nous transformons toutes nos activités de surveillance continue en réanimation au fur et à mesure. Et donc, nous avons procédé à quelques premiers transferts de patients vers les unités de surveillance continue des cliniques. Et puis, nous avons aussi commencé à adresser directement des patients de médecine en post-urgence ou à la sortie de nos services de médecine vers les cliniques privées. Et ça se passe très bien. Nous avons un point hebdomadaire d'organisation et nous avons une cellule de gestion des lits territoriale qui nous permet d'avoir une visibilité sur le niveau d'activité de chacun. Comme vous le savez, nous avons également pu faire preuve de solidarité à l'égard de régions qui sont dans une situation beaucoup plus critique que la nôtre. Donc, la semaine dernière, nous avons accueilli deux patients de la région Rhône-Alpes et ce matin, en fin de matinée, nous accueillerons à nouveau quatre patients de la région Rhône-Alpes dans le cadre de transferts qui sont gérés au niveau de la région Pays de la Loire.
Alain Mersa, président de la commission médicale d'établissement et chef du service de réanimation, s'est ensuite exprimé plus en détail sur la situation épidémiologique, qui est moins inquiétante que dans d'autres régions, et l'offre de soins disponibles pour la prise en charge des patients Covid. Un enjeu d'autant plus important qu'à l'approche de l'hiver, l'activité hospitalière est naturellement plus élevée. Le professeur attend des résultats significatifs du confinement dans les prochaines semaines, car l'afflux de malades ne ralentira pas d'ici la mi-novembre.
Cette deuxième vague, la différence avec la première, c'est qu'on s'y attendait. Et pourquoi on s'y attendait ? Parce que nous avons des indices qui nous permettaient de savoir qu'il y allait avoir un afflux de malades. Ces indices, c'est essentiellement le nombre de patients qui sont infectés par le Covid dans la population. Et ces indices étaient extrêmement élevés depuis début septembre, notamment dans les populations jeunes, ce qui ça ne nous posait pas de problème parce que pour l'immense majorité, ces patients jeunes infectés par le Covid n'ont peu ou pas de symptômes. Et en tout cas, ne nécessite en règle jamais d'hospitalisation. Par contre, on a vu croître depuis la mi-septembre le nombre de patients de plus de 65 ans porteurs du Covid. Et ça, c'était une indication de la survenue à terme d'un afflux de malades en milieu hospitalier et dans un délai qui, en général, est de l'ordre de trois semaines après le début de l'augmentation de l'incidence chez les gens. Depuis 65 ans, on voit arriver les patients à l'hôpital en grand nombre. Donc on y était préparé. Donc ça, c'est un élément extrêmement important. Mais le petit bémol, c'est que cette deuxième vague, elle survient à une période de l'année où l'activité, du fait des autres infections hivernales, l'activité de l'hôpital, et notamment les services de réanimation, est habituellement déjà très élevée. Ce qui est un peu différent de la première vague qui, elle, est survenue dans une période mars-avril, qui n'est pas la pire période pour les services de réanimation notamment. La région Pays de la Loire, le Maine-et-Loire en particulier, ont des taux d'infection Covid élevés. C'est pas, il y a pire sur le territoire national, notamment en région PACA, Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France, mais quand même, et c'est très élevé. Et donc, on a vu apparaître débuter cette deuxième vague, disons depuis le 10-12 octobre, on a vu augmenter progressivement le nombre de patients. Le problème, c'est l'accélération de cette augmentation et c'est surtout le fait que sans mesure particulière de santé publique, il n'y a pas de raison qu'il y ait que cette accélération ne se ralentisse pas. Et donc, les mesures qui ont été prises la semaine dernière de confinement vont très probablement avoir un effet, et tout le monde l'espère, mais cet effet, il faut bien comprendre qu'il ne sera mesurable qu'au minimum trois semaines après le début du confinement. Ce qui veut dire que pour la période qui vient jusqu'au 15 novembre, l'histoire est déjà écrite. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va avoir cet afflux de malades. On s'est préparé à ça, alors sur deux versants, le versant de l'hospitalisation conventionnelle qui est un versant important, et aussi sur l'augmentation du nombre de lits de réanimation sur l'établissement. Avant la crise Covid, il y avait 51 lits de réanimation au CHU d'Angers. ce qui représente grosso modo 1% de l'offre de lits de réanimation sur le territoire national. Donc 51 avant la crise, on est aujourd'hui à 74 lits de réanimation. On sera à 84 lits dans quelques jours et avec un objectif de proposer 99 lits de réanimation à la mi-novembre, au moment où on devrait être confronté à la situation de pic épidémique. Il faut se rendre compte que cette augmentation de l'offre de soins de réanimation, c'est un effort considérable, notamment en termes de mobilisation de personnel non médical. Pour 5 lits de réanimation, il faut avoir 2 infirmières présentes 24 heures sur 24. Et pour avoir 2 infirmières présentes 24 heures sur 24, il faut 12 infirmières. C'est ça qui, pour l'essentiel, nous oblige donc à redistribuer du personnel au sein de l'établissement pour pouvoir ouvrir ces lits de réanimation. Cette redistribution va nous amener dans les jours qui viennent à commencer la déprogrammation. Ça veut dire qu'on va repousser des interventions chirurgicales et pas chez tout le monde, pour les patients chez qui le fait de repousser l'intervention induit le moins de pertes de chance possible. Donc ça exclut bien sûr les indications urgentes, ça exclut évidemment les indications liées à des pathologies cancéreuses. Et donc c'est des décisions très ciblées. Les patients vont être informés que leur intervention est éventuellement repoussée directement. Et un des messages importants, c'est qu'il faut absolument que les patients, si les patients ne reçoivent pas d'informations contraires, il faut qu'ils viennent à leur rendez-vous, ils seront pris en charge. Toutes ces déprogrammations feront l'objet d'une information extrêmement claire auprès des patients concernés.
Guillaume Bouhour, directeur de la cellule de crise hospitalière, a ensuite expliqué en quelques mots le fonctionnement de ces réunions de crise nécessaires à la bonne gestion de la pandémie dans le CHU.
La cellule de crise se réunit quotidiennement et suit sur les indicateurs de taux d'occupation des lits de l'établissement, de réanimation, les indices épidémiologiques, les projections, comme l'a expliqué le professeur Merka, et puis aussi l'état des besoins sur le territoire. Et c'est avec ces indicateurs qu'on déclenche les différents paliers pour avoir un tout petit peu d'avance, ne pas se trouver débordé, mais sans surréagir et pour maintenir comme de cette façon-là le plus possible l'offre de soins des patients non-Covid.
D'après son personnel, le CHU d'Angers semble être plus organisé à tout point de vue pour cette seconde vague de coronavirus. Pour autant, il ne faut pas sous-estimer la situation sanitaire actuelle à Angers comme ailleurs, où le pic épidémique inquiète des établissements déjà à la limite de la saturation.
Merci beaucoup Léo pour cette captation. On se retrouve, nous, juste après la Rangi. Le titre, c'est Flowjoy. h 23, toujours sur Radio Campus Angers, toujours dans la Covidienne, pour une émission consacrée autour de notre système de soins. Et je me tourne à nouveau vers toi, Léo, puisque tu as bien travaillé en ce début de semaine et que c'est également toi qui s'es chargé de cette deuxième partie d'émission.
Alors, pour cette deuxième partie d'émission, vous allez écouter Brigitte Molines, qui est engagée au sein du syndicat Force Ouvrière du Maine-et-Loire, et qui va vous parler du rassemblement organisé demain par le syndicat du côté du village Saint-Exupéry à Avrillers, en soutien au personnel médico-social, oui c'est ça, ouais, exactement, excusez-moi, se trouve exclu pour le moment du Ségur de la Santé. Et ça commence tout de suite. À l'issue de la première vague de coronavirus, le gouvernement a lancé le Ségur de la Santé. Il s'agit d'une série d'accords injectant plusieurs milliards d'euros dans le système de santé, dont les faiblesses ont été pointées par la pandémie. Il prévoit notamment 8,2 milliards d'euros alloués, je cite, à la revalorisation des métiers des établissements de santé et EHPAD et la reconnaissance de l'engagement des soignants au service de la santé des Français. Le syndicat Force ouvrière des services publics de santé déplore en revanche que les personnels des établissements sociaux et médico-sociaux relevant de la fonction publique hospitalière n'aient pas été pris en compte dans le Ségur de la santé. Une réunion devait se tenir à ce sujet lundi 2 novembre, mais elle a été annulée. En conséquence, le syndicat du Maine-et-Loire a appelé à la grève puis à un rassemblement au village Saint-Exupéry d'Avrier, le 5 novembre à 14h. Pour mieux comprendre cette mobilisation, je vous propose d'écouter Brigitte Molinès, aide-soignante et gérante des syndicats Force ouvrière santé de Maine-et-Loire. Bonjour Brigitte.
Bonjour.
On va revenir dans un instant sur ce rassemblement qui est organisé pour soutenir les personnels des établissements sociaux et médico-sociaux. Mais d'abord, pouvez-vous nous préciser de quel métier il s'agit? En quoi consistent ces métiers en dehors de cette période plutôt délicate?
Le métier d'aide-soignante, c'est s'occuper de l'hygiène des patients, des résidents en fonction des structures dans lesquelles on se trouve. Pour exemple, on a majoritairement des aides-soignants dans les EHPAD pour prendre en charge des personnes âgées. Mais ça peut tout à fait être aussi dans un hôpital où là, on prend en charge tout ce qui est toilettes, soins, donner les médicaments aux patients, aux résidents. Et puis, le ménage fait partie aussi. L'entretien des locaux fait partie aussi du métier de l'aide-soignante, même si on a des ASH dans la plupart des structures hospitalières aujourd'hui. Dans le Ségur, au-delà du Ségur, ce qui était prévu, c'était un élargissement du champ de compétences des aides-soignants avec la possibilité de faire de nouveaux actes qui ne sont pas aujourd'hui encore légalisés, je veux dire, qui ne sont pas autorisés légalement. Donc, une revalorisation salariale qui viendrait en plus d'un élargissement du champ de compétences.
Et ces métiers, justement, médico-sociaux, ça représente combien de personnes dans le département à peu près?
Ça représente quand même, au total, en établissement, on a quand même 104 établissements publics, sans compter le privé. Dans le public, j'entends médico-social, territorial et santé. On a quand même énormément d'établissements avec énormément de personnel soignant. C'est énorme, mais loin d'être suffisant.
Quelle a été la situation justement des personnels des établissements sociaux et médico-sociaux pendant la première vague de coronavirus?
Tout dépend où on se trouvait. C'est vrai que si on était dans une EHPAD, comme vous le savez tous, les résidents des EHPAD ils restaient confinés à l'intérieur de l'EHPAD et n'avaient pas droit aux visites. Donc c'était double charge pour le personnel soignant qui était en place, avec le risque aussi d'être le contaminant des personnes âgées, parce que c'est quand même ça. Le risque, c'est comme eux ne sortent pas et que le personnel sort, s'il y a un cas de coronavirus dans la structure, au-delà du manque d'effectifs dans les structures, il y a la culpabilité d'avoir été celle ou celui par qui la contamination est arrivée. Donc, des sous-effectifs, la situation, ça a été manque de masques, manque de protection. Après, dans les hôpitaux, moi je travaille en psychiatrie. En psychiatrie, on a été, comme tout le monde, au départ, on nous a dit qu'il ne fallait pas de masque parce qu'on n'en avait pas. On a pris le risque tous, les uns et les autres, d'être contaminés ou de contaminer. D'autant plus que nous, en psychiatrie, on recevait beaucoup de patients. Il n'y a pas de test, il n'y avait pas de test, il n'y avait rien à ce moment-là. Ça s'est décanté depuis, c'est vrai, mais est-ce que les choses ont vraiment réellement changé aujourd'hui? Je ne suis pas persuadée.
Donc vous ne pensez pas que vous êtes mieux préparé aujourd'hui à affronter la deuxième vague du coronavirus qui est là?
Je dirais que à la différence de la première, c'est qu'on a des masques. Ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut noter. On a des masques, on a du matériel de protection pour l'instant, ça c'est clair. Il y a eu au niveau des gants une certaine tension. Bon, là, ça semblerait s'équilibrer. Donc, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, on n'est pas préparé. Mais aujourd'hui, comme on teste plus, on a beaucoup plus de possibilités de tester. Effectivement, on constate qu'on a des gens qui sont positifs, mais complètement asymptomatiques. Et malgré ça, dans certaines structures, je dis bien pas partout, on demande aux agents asymptomatiques, mais positifs, de venir travailler.
Le syndicat Force ouvrière Services publics et de santé du Maine-et-Loire appelle à faire grève et à se rassembler jeudi 5 novembre. Vous êtes pourtant professionnel de santé et vous appelez à enfreindre les règles du confinement. Est-ce bien raisonnable de vous mobiliser maintenant ?
Alors là, c'est pas enfreindre les règles du confinement. Tout le monde sera masqué, ça c'est clair, avec une certaine distanciation. Et pour autant, ça nous empêchera pas de revendiquer. Je veux dire, c'est pas parce qu'on est à un mètre les uns des autres qu'on peut pas manifester, ça c'est clair. Là, il y a vraiment pas de problème. On va pas à l'encontre des règles. Dès l'instant où on se lave les mains, où on est masqué, je vois pas où est le problème.
Vous êtes soutenu par vos confrères des autres cliniques et même du CHU d'Angers dans votre mobilisation ?
Ah oui, tout à fait. Il y aura d'ailleurs des personnels du CHU.
Vous appelez au rassemblement devant le village Saint-Exupéry d'Avrier qui fournit une aide sociale à l'enfance. Y a-t-il une raison qui a guidé ce choix de rassemblement ?
Complètement, puisque c'est une structure qui aujourd'hui n'a même pas été destinataire pour le moment, de la prime Covid. Ça, c'était une prime qui a été versée au personnel, comme vous le savez, de la santé, qui ont été au moins 30 jours en activité entre la période du 1er mars et du 30 avril. Là, aujourd'hui, c'est la seule structure que je connaisse dans le département fonction publique hospitalière qui n'a pas été destinataire de la prime Covid. De plus, eux font partie des agents qui ne sont pas destinataires du Ségur de la Santé, enfin des 183 euros du Ségur de la Santé. Parce qu'ils ne sont pas exclus des revalorisations salariales, mais ils sont exclus des 183 euros du Ségur de la Santé. Eux, comme la masse du Sésame, comme le GCSMS de l'Anjou, et puis des SIAD, des quelques petites structures autres dans le département.
Le mot d'ordre de cette mobilisation, c'est même statut, même diplôme, même salaire, 183 euros pour tous, c'est votre principale revendication.
Complètement, tout à fait. Je ne vois pas ce qui pourrait justifier, surtout en période de crise, en plein Covid comme c'est aujourd'hui, que des collègues n'aient pas cette prime de 183 euros, ne soient pas payés de la même manière que nous le sommes, alors qu'il faut savoir qu'ils font partie de la fonction publique hospitalière, qu'au moment des élections qui ont lieu tous les 4 ans, ils votent en même temps que nous, ils ont les mêmes instances que nous, c'est incompréhensible.
Quels sont vos interlocuteurs locaux pour discuter justement de vos revendications ? Même à l'échelle du ministère, avec qui vous pouvez engager un dialogue pour faire entendre vos revendications ?
De toute façon, j'allais dire, nous, on est les porteurs déjà des revendications, puisque moi, je ne suis pas la chef, je ne suis pas qui que ce soit, je suis la secrétaire du groupement départemental, ça regroupe tous les établissements de santé du département où on a un syndicat. Donc déjà, moi, je fais passer l'information à mes syndicats Force Ouvrière, et puis on fait remonter l'information au niveau de la région. On a alerté l'ARS, on a alerté le conseil départemental sur le fait que c'était pas acceptable. On a notre fédération qui se bagarre tous les jours pour obtenir, puisqu'on est signataire, je veux dire, qui se bagarre tous les jours pour obtenir gain de cause pour les médico-sociaux, sachant que on pensait avoir une réponse lundi, mais la réunion a été annulée et du coup c'est Matignon qui va désormais trancher pour décider de la suite à donner.
Comment est-ce que vous envisagez la suite pour faire entendre vos revendications ? Vous comptez relancer les pouvoirs publics par le dialogue, continuer les rassemblements comme celui que vous tenez demain ?
En toute sincérité, on est dans une situation, comme vous l'avez dit, qui est quand même particulière. On est en plein confinement. On essaie de se mobiliser. Normalement, aujourd'hui, je tiens quand même à le préciser, on avait prévu une initiative régionale à Mindin. On bloquait le pont de Saint-Nazaire. Du fait du confinement, on a été obligé de supprimer ça. Mais ça n'empêche que localement, on va essayer de se mobiliser. On va essayer de faire en sorte de faire d'autres journées d'action. Mais ce n'est pas nous qui allons faire plier le gouvernement en restant chacun dans nos boutiques. Dès qu'on sera déconfiné, la priorité, ce sera un mouvement à Paris, ce sera une manifestation sur Paris.
Très bien. Écoutez, merci Brigitte pour votre intervention et je vous dis à très bientôt.
Et merci encore une fois à Léo pour la réalisation quasiment de cette émission en son intégralité. Hein. On se retrouve quant à nous dès demain pour une nouvelle Covidienne. Ce soir, c'est votre soirée rap hip-hop avec Scratch Fellaz suivi de La Mine. Très bonne soirée sur les ondes de Radio Campus Angers. À demain.